Salut.
Ok, est-ce qu'on pourrait avoir du Lola Cola avec du whisky?
Alors, whisky coca quoi.
Voilà.
Deux fois?
Non, une fois pour lui.
Une fois.
Puisque lui, il sait pas parler français donc.
Ah, y'a pas de soucis. Tu commences comme
là? Ah, ouais, ou quoi?
Ouais.
C'est un peu un petit cocon en dehors de chez toi ou de tes autres endroits où tu te sens encore assez bien.
C'est bien que t'enregistres parce que comme ça les gens ils donnent du pourboire, sinon ils sont très radins. Putain, je suis enregistré.
Pourboire, combien on a dit? 24, alors 56.
Des fois on venait là, même il n'y avait pas de soirée, en fait c'était un réflexe. Puis on se posait, puis on buvait des bières devant parce que c'était un réflexe.
Voilà, 9,50 s'il te plaît.
Et merci, santé. Bonne soirée.
C'est un endroit coloré, c'est un endroit vivant, quoi, okay, avec des choses qui se passent tout le temps et qui doivent continuer et qui doivent absolument rester dans ce quartier de la Fonderie.
Frisson, une idée un peu folle et surtout une urgence à faire bouger les lignes. À son ouverture en 1983, rien ne laisse présager que ce haut lieu de la culture alternative deviendra un emblème de la ville de Fribourg. En 40 ans, le club a déménagé trois fois, il s'est réorganisé à de multiples reprises, il a vu se succéder plusieurs générations de passionnés, mais une chose n'a jamais changé durant toutes ces années, l'esprit de Frisson. Depuis 40 ans, Frisson, c'est bien plus qu'une salle de concert, c'est d'abord une famille avec des membres qui vont et qui repartent, un lieu de rencontre et d'échange qui a coforgé l'identité de la ville tout entière et qui sert de trait d'union entre les régions germanophones et francophones du canton. Pour honorer ce haut lieu de culture, de rencontre et d'échange, ce podcast plonge dans les souvenirs de celles et ceux qui se sont engagés durant ces 40 dernières années pour faire de ce club de musique un espace mythique, unique et souvent décisif dans le parcours de celles et ceux qui y collaborent. Épisode 6. Un soin à prendre soin.
Loud and Proud.
Frisson Loud and Proud depuis 1983.
Du rock, oui, mais du rock fort. C'était notre slogan interne.
Mais aussi with amour. Il y a pas mal d'amour dans cet endroit en général.
Pour une grande partie de la jeunesse fribourgeoise, Frisson fait partie intégrante du paysage de son enfance, une salle intrigante, avec ses graffitis colorés et sa réputation sulfureuse. En 40 ans d'histoire, la mythique salle de concert n'a jamais perdu de son attrait, elle peut compter sur l'énergie de nouvelles générations de passionnés de musique.
Je suis au Fribourg il y a 3 ans et aujourd'hui,
alors j'ai déménagé à Fribourg il y a 3 ans et je ne connaissais personne ici. Je me suis dit, je vais voir à quoi ressemble la vie culturelle nocturne. L'ambiance, elle est très différente d'une ville à l'autre, donc j'avais déjà entendu parler de Frisson, mais j'y étais encore jamais allée. J'y suis simplement allée une fois avec une pote de classe et d'abord on a été surprise par la taille du lieu. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus petit. Et le fait qu'il y a deux salles, ça m'a beaucoup impressionnée, je dois dire.
Kim Saner, liée à l'histoire de Frisson depuis un an et demi.
Et au niveau de l'ambiance, c'était fascinant. Je ne sais pas trop comment la décrire, mais c'était du style « Salut, viens, entre chez nous » et je me suis sentie vraiment accueillie tout de suite. Je me souviens aussi de l'image des gens de Frisson assis dehors. C'est une image très spéciale, je trouve. On sait tout de suite qu'il s'y passe quelque chose. Tout le monde discute, tout le monde a une bière dans la main. Ce rebord de fenêtre est un endroit très important de Frisson, je crois.
J'ai toujours été un peu, entre guillemets, impressionnée par cette arrivée où il y a cette espèce de descente, il y a plein d'affiches sur les murs. J'étais en mode « wow », et après il y a la grande salle et la grande scène aussi.
Adèle Weber, Benjamine de la famille Frisson.
Et cet endroit, je sais qu'il m'avait fait un peu une impression, enfin, que c'était énorme, alors qu'en soi, c'est pas non plus la plus grande salle qui existe. Mais je me souviens que je me sentais un petit peu tout petite et c'était impressionnant, quoi.
J'ai découvert Frisson petite, enfin petite, je devais avoir 10 ans. C'est mon papa qui m'a amené car on habitait juste à côté. C'était un peu effrayant, cette salle sombre de Frisson, mais c'était très cool.
Jenny Abeck, impliquée à Frisson depuis 3 ans.
Et ensuite, j'ai commencé à y sortir moi-même à l'âge de 16 ans. Enfin, je ne me rappelle pas avoir essayé de passer quand j'avais 15 ans.
Am ersten Abend bin ich mal her, so, hallo, ist hier die Joelle da? Oder so, ich habe eine Ansprechperson.
Le premier soir, j'y suis allée et j'ai demandé, salut, Joelle est là. Je cherchais une personne à qui m'adresser et elle s'est tout de suite présentée et m'a dit, tu peux venir avec moi. Ce soir-là, il y avait environ 800 personnes et c'était mon premier jour de travail. On m'a conduite au vestiaire où il y avait une personne qui travaillait là depuis un petit moment déjà. J'étais assez soulagée car au début, j'étais un peu dépassée. Et Joël avait bien sûr mille trucs en tête. Elle devait courir partout, répondre au téléphone et faire plein d'autres choses. Elle m'a juste dit, voilà, fais comme tu peux. Et elle est repartie. J'étais là avec Grégor et c'est lui qui m'a dit, prends ça et ça. Et j'ai commencé à réaliser, ah ok, c'est comme ça que ça marche ici. Et c'était un gros baptême du feu car ce soir-là, la salle était pleine et on avait énormément à faire. Mais au bout de 10 minutes, je me suis sentie intégrée et c'était tout simplement génial. En tout cas, tout a évolué très vite, mais de manière très organique, tout s'est fait naturellement.
Gilles Poste, care et wellness et vestiaire. Du coup, on s'occupe de mettre, de ranger les vêtements des gens et de les garder. Et sinon, on s'occupe aussi de regarder un peu que dans la salle, tout le monde aille bien. S'il y a des gens qui ont besoin d'aide ou de compagnie ou qu'ils ont un problème, on essaie d'être là pour eux et d'être vraiment pour la prévention. C'est vraiment être au-delà qu'il y ait déjà un problème. On est juste avant le problème.
La priorité, c'est la santé. Par exemple, si quelqu'un vomit devant toi et tombe dans les pommes, t'es là, tu dois faire quoi? Je veux dire, on n'est pas des médecins. Et dans ce genre de situation, je repense à l'époque où j'ai suivi le cours de secouriste pour passer le permis de conduire. Et là, t'as les réflexes qui reviennent, tu le mets en position latérale, ensuite de l'eau sur le visage, etc. Et c'est des réflexes qu'il faut avoir, même s'il y a du vomi et de la bière partout, et que les gens crient autour de toi et ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe. Ce sont des situations qui ne sont pas du tout faciles, mais ça fait partie de la vie nocturne. Ici, certaines personnes cherchent aussi leurs propres limites, et c'est pourquoi il est d'autant plus important que des personnes comme moi savent comment agir.
Je travaille au bar depuis septembre ou octobre, et c'est un peu comme un collègue au bar, Ludo, il dit toujours que c'est une sorte de chorégraphie. Pas qu'on danse derrière le bar, hein, mais l'image est assez juste car il faut beaucoup bouger. Il y a toute une série de mouvements qui varient en fonction de la boisson à préparer. Et tout va très vite dans la tête. Ok, quelle boisson et quel geste, et je dois aller faire ça, et je dois faire cette boisson et celle-ci en même temps. C'est quoi la meilleure stratégie? Et j'adore avoir ce genre de mission et tout faire dans l'ordre. C'est très satisfaisant quand tout fonctionne parfaitement et quand tu peux apporter tes boissons super rapidement. C'est beaucoup de mouvement et j'adore ça aussi. C'est comme si on était un peu protégé physiquement de la masse des gens qui dansent. On est derrière le comptoir et c'est comme si on regardait l'intérieur d'un aquarium. Et c'est un sentiment très particulier. Parfois c'est aussi un peu bizarre, mais c'est très drôle.
Quand j'ai commencé à Frisson, c'est la maison. C'était tellement super de bosser dans une salle qu'on connaît par cœur et qu'on...
Marjo Colo, liée à l'histoire de Frisson depuis 5 ans.
Et qu'on aime de tout son cœur depuis mes 16 ans, quoi, que j'adore venir là. C'est hyper important pour moi, en fait, de travailler dans un lieu que j'aime, avec des gens que j'aime.
La bière après le travail, quand on a tous terminé...
Morgan Stefanen, embarqué dans l'aventure Frisson depuis une dizaine d'années.
Qu'on a terminé de nettoyer et qu'on se retrouve tous au même endroit en attendant que Marjo ou Romain ait bouclé la caisse et qu'on est tous là devant la porte à attendre et on se dit « Alors tu bois quoi ?» Et on se refait le film de la soirée, c'est un super moment. Car t'as vu les gens pendant 6 heures de temps, mais tu ne les as pas vraiment entendus. Et là, c'est vraiment à hauteur d'yeux se demander « Et pour toi, ça allait comment ?» Et t'as remarqué ce client et cette cliente-là, tu l'as vu ? Ah ouais, à fond, et tu fais un petit bilan pour savoir comment vont les autres. On se met à jour et c'est vraiment un moment sympa.
dann machst du deine Updates und das ist lustig.
Au-delà de l'organisation de soirées, ce haut lieu de la culture fribourgeoise est avant tout un espace de socialisation, d'échange et d'envie de collaborer à une idée commune. Mais en mars 2020, l'arrêt imposé par la pandémie de coronavirus va brutalement priver Frisson du sens même de son existence, un moment qui va marquer au fer rouge les équipes qui s'y engagent corps et âme, soudain privées de l'un des piliers de leur existence.
Ça restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Donc un vendredi 13, hein, tout le monde s'en rappelle ça, je crois, 13 mars 2020, j'étais dans la cuisine, il y avait un groupe qui s'appelle Ubris, d'ailleurs un groupe fribourgeois qui était en train de faire son soundcheck.
Léa Romanence, active à Frisson depuis 5 ans.
Et donc moi j'étais dans la cuisine en train de regarder notre cher Alain Berset annoncer qu'on allait devoir fermer. Et donc j'ai dû moi aller sur scène dire au groupe, ben il n'y aura pas de concert ce soir. Eux ils étaient dépités, mais ils ont été incroyables parce qu'ils avaient prévu de filmer le concert. Et donc en deux-deux ils se sont dit, ok bon on va filmer le concert mais surtout on va le diffuser en live. Et moi à ce moment-là, ben, j'ai passé littéralement 3 heures de temps à annuler tous les concerts, à appeler tous les collectifs. Appeler évidemment toute l'équipe ici, à dire à tous les chefs de groupe, bah, vous annulez au planning, pour l'instant on dit ça, 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 ça. Essayer de dire aux gens qu'ils prennent soin d'eux, essayer de rassurer les gens. Et on était pas mal de gens du bureau qui étions là, et du coup on était mis dans une surexcitation de se dire mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive, mis dans un flip quand même, parce que bah, y a quand même les questions de la pandémie, quoi. On se dit mais mon Dieu, mais nous, machin, enfin voilà, ça veut dire quoi, c'est la guerre, c'est hyper violent, quoi. Mis dans un truc de « mais on va faire quoi ces prochains mois ?» Enfin, c'était tellement bizarre.
Le Covid a quand même eu un effet assez dévastateur sur une partie de la génération jeune actuellement. Je me rappelle quand je travaillais à Frisson, pendant l'été, à un moment donné, le téléphone il commençait à sonner.
Ania Della Croce, membre de la famille Frisson pendant 4 ans.
D'abord, c'était les jeunes ados, puis après, c'était leurs parents qui nous appelaient pour dire « Mais est-ce que c'est vrai que je peux venir à Frisson à la rentrée parce que je vais avoir 16 ans ?» Mais c'était assez rigolo de voir cet engouement du jeune de 15 ans qui allait avoir 16 ans, qui était probablement peut-être déjà venu une fois à Frisson, mais de manière un peu illégale, on va dire, qu'on n'avait peut-être pas vu passer à l'entrée. Et ça, il n'y a pas eu pendant le Covid, quand même. Il y a, pendant 2 ans, toute une génération qui n'a pas découvert ces salles, que ce soit Frisson ou d'autres. Voilà, je suis assez curieuse de voir comment ça évolue, mais je trouve ça assez inquiétant, en fait.
Auch die Zeit, wenn ich mich nicht mehr erinnere, c'est einfach so scheiße gewesen.
J'ai pas envie de me souvenir de cette période, c'était tellement la merde. On s'est évidemment tous manqué, on a rapidement remarqué que le home office, ça n'existe pas pour nous, surtout quand tu travailles au bar. Et c'est là qu'on a remarqué que le bruit, la musique, l'atmosphère, les lumières, tout, il n'y avait plus rien et ça manque, t'en as envie.
Alles, das hast du nicht mehr gehabt und irgendwie das fehlt auch irgendwie.
Quand on est à la maison, on se dit des fois on a envie de paresser car le job c'est assez sportif. On est debout toute la soirée, on doit porter des trucs lourds. Quand tu travailles au bar, les gens te hurlent ce qu'ils veulent et t'arrives pas à les entendre et tu te dis ah bah ça ferait du bien un peu de calme de temps en temps. Mais quand on l'a eu, on s'est dit non, ça va pas du tout.
Franchement, c'était méga dur. Quand j'y repense, c'était vraiment dur. On se sent inutile, totalement inutile. Enfin, ça a été des débats monstrueux au sein de Frisson, typiquement quand il y a les questions de pass 2G, 3G, là où vraiment c'était, mais on n'était pas d'accord à l'interne. Enfin, c'est, voilà, prendre en compte les avis de tout le monde. Décider à un moment qu'on n'allait rien faire pendant le Covid. Parce qu'il y a plein de salles qui ont fait plein de choses, et moi j'ai dit non, on ne fait rien. En fait, on ne fait rien, parce que déjà, on ne sait pas faire autre chose que ce qu'on fait. On ne sait pas faire du stream, on est mauvais, enfin, on ne sait pas le faire. Et puis, ce n'est pas ça notre job, quoi. Enfin, stop, là. Moi, si on m'avait dit au départ, mais évidemment tout le monde dit ça, mais si on m'avait dit au départ, bah, pendant 2 ans, vous ne pourrez pas ouvrir Frisson. Bah, génial, j'aurais pu tellement faire des choses utiles pour Frisson aussi, de restructuration, de penser à ces questions de durabilité, à ces questions, enfin toutes ces choses qu'on n'a jamais le temps de faire en fait. ça aurait été super. Mais là, c'était impossible parce que chaque mois, on devait être prêt à réouvrir. Chaque mois, quoi. Et ça, mais c'était... mais. Puis en fait, on voulait être prêt à réouvrir parce qu'on savait qu'il y avait une attente du public derrière. Donc, on voulait répondre à cette attente. On savait que les gens, ils avaient tellement besoin de ça et qu'ils manquaient tellement de ça. Alors du coup, ben, on y allait tout le temps, quoi. Puis non, c'était... non, franchement, c'était... en vrai, c'était affreux. Je détestais.
De voir les gens qui sont revenus en masse après, la... après tous ces mois de fermeture, de semi-ouverture, de tout ça, et qui sont revenus en masse, enfin, ça faisait tellement plaisir et ça donne tellement du sens déjà à notre job, mais aussi à cette salle.
Après la quarantaine, avec toutes les questions liées au Covid, Frisson a eu besoin de renfort pour scanner les passes. Et j'ai profité de l'occasion car ça faisait longtemps que je cherchais un petit boulot. Et quel meilleur boulot que de travailler à Frisson. Et c'est comme ça qu'on a commencé. À l'époque, on nous appelait les anges et on était devant Frisson à scanner des passes Covid jusqu'à 5 heures du matin.
Ça me fait fièrement le cœur.
Après cette histoire du Covid qui a épuisé tout le monde, on ferme, on ouvre, on met des masques, on ne met plus les masques, après il faut un papier, puis cela, c'était absolument épouvantable cette histoire.
Jean-Marc Gachou, lié à Frisson depuis presque 40 ans.
Donc d'avoir réussi à redémarrer, et puis de faire que ça tourne, le programme arrive, les gens viennent, mais c'est vraiment formidable, moi je trouve que... moi je suis épaté, vraiment épaté.
Imprévu et radical, la pandémie sert alors de catalyseur à des réflexions qui bouillonnaient déjà dans le milieu depuis quelques années. Avec la fermeture de ces lieux de culture durant plusieurs mois, c'est toute la place de ces salles de concert dans la société qui est questionnée. Dans un marché de la musique en pleine mutation, toutes ces réflexions autour du rôle et surtout du positionnement de salles comme Frisson deviennent une nouvelle fois centrales. La programmation devient-elle trop commerciale ? Y a-t-il encore de la place pour des projets en marge de la norme ? Y a-t-il suffisamment de place mise à disposition de jeunes collectifs de la scène underground fribourgeoise ? Des réflexions qui occupent les esprits au sein et autour de Frisson.
Une des choses qui est compliquée quand tu travailles dans des salles comme celle-ci, c'est où est-ce que tu traces la ligne de ce qui est acceptable ou non en termes de musique commerciale versus musique indépendante ? Et puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible parce que c'est une question déjà aussi personnelle, de sensibilité personnelle, mais c'est aussi une question... moi, j'ai beaucoup sollicité le comité à l'époque par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que ça rentre dans la ligne artistique ? Est-ce que c'est pas too much ? Est-ce qu'on vend pas notre âme au diable si on invite tel ou tel artiste ? Je vais pas les citer ici. Et puis ça, ça a été des grosses discussions. Mais je pense que ça l'est encore.
La musique actuelle, c'est vraiment, je trouve, un domaine artistique qui est globalisé. Et il se passe des choses dans le monde, liées à l'économie, évidemment, de ce marché, qui est un marché qui est très rentable, en fait, si on veut, où, en fait, d'énormes entreprises rachètent beaucoup de structures, de festivals, de salles, d'agences de booking, de billetteries, de choses comme ça. Et nous, en Suisse, on est encore un peu en retard par rapport aux autres pays à ce niveau-là. Mais tant mieux, parce qu'on est encore préservé. Et je pense que tout l'aspect des musiques actuelles alternatives est encore bien préservé et soutenu. Mais tôt ou tard, à un moment, on va être confronté. Enfin, on l'est déjà un peu. Et ça va, plus ça avance, plus ça va être dur de résister, en fait, à pas tomber dans ce marché-là. Et surtout résister financièrement face à ces grosses multinationales. Donc ça va être... ça, c'est un peu l'énorme enjeu des musiques actuelles.
Je pense qu'il y a vraiment un peu de tout. Il y a des soirées un peu plus alternatives qui vont avoir un public justement un peu plus alterno. Et d'autres, il y aura des enfants qui viennent voir du Big Floly avec leurs parents qui sont peut-être même jamais venus à Frisson.
Selena Buller, impliquée à Frisson depuis 8 ans.
Et qui vont se dire, c'est super en fait, Frisson, la première fois que je suis venue, j'avais 12 ans, je suis venue voir Big Floly et que plus tard ils viendront et puis ils viendront en soirée alterno parce qu'ils auront découvert ça. Donc je pense qu'il y a, pour moi, il y a toujours une âme alternative à Frisson.
Pour moi, Frisson correspond toujours à l'ère du temps. Il faut aller avec son temps. On ne peut pas comparer le Frisson d'aujourd'hui et le Frisson des années 80 et plus généralement de la scène culturelle de l'époque.
Pascal Maradan, ou plutôt Mara, actif dans l'aventure Frisson depuis près de 25 ans.
Avec le temps, ça se transforme, mais je suis convaincu, on aura toujours besoin de plateformes pour la culture et comme ici pour la musique. Bien sûr, la façon de consommer de la musique a un peu changé chez les jeunes. Ils préfèrent regarder tranquillement des vidéos YouTube à la maison plutôt qu'aller voir du live. Mais il y a toujours eu des phases comme ça, ça fluctue toujours.
Actuellement, pour des lieux comme ça, c'est plus compliqué parce que tout s'est institutionnalisé. Grossièrement dit, le rock, avant le rock, c'était la rupture. Et à l'heure actuelle, c'est une institution. Le rock, avant, c'était quand même une musique des jeunes, faite par des jeunes, pour emmerder les parents.
Yvan Salin, membre de l'équipe Frisson depuis près de 25 ans.
Et actuellement, ceux qui vont au concert, eh ben, ils ont, les musiciens peuvent avoir 50, 60, 70 ans. Moi, j'ai 65 ans, je vais voir des concerts. Alors après, sur des scènes comme Frisson, c'est les plus jeunes, c'est ceci et cela, mais ce que représente le rock comme mouvement, on est dans une autre phase. Et c'est comment garder une identité forte là autour. Et je pense que c'est un joli défi pour l'avenir, ça c'est clair.
Ces questions identitaires sont loin d'être nouvelles. Flashback, en 1990, toutes les interrogations autour de cet équilibre subtil entre commercial et alternatif sont déjà vives. C'est au micro de Martine Béguin, journaliste qui consacre 55 minutes d'émission au Club Fribourgeois sur les ondes d'Espace 2, que Marius Kayser défend la ligne de programmation de Frisson.
Tu parles d'ouverture des genres. Est-ce qu'à ton avis, cette évolution a impliqué un côté plus commercial, un côté plus grand public ?
Non, pas du tout. Parce que cette évolution est liée à des changements dans le monde musical. Parce que tout ce qui était New Wave est pratiquement mort pour l'instant. Puis nous, dans ces dernières deux années, on a commencé à faire du rock dans le sens plus large. On a commencé à faire du rock hardcore américain. Ça s'est bien marché. On s'est aussi ouvert envers le metal, qui a aussi fait beaucoup de progrès. On avait eu des grands succès avec les concerts heavy metal. Et puis c'était pas un public bête, comme on dit toujours, les heavy metal sont bêtes, ils ont rien dans la tête. C'était très sympa, c'était pas violent, c'était un des meilleurs moments dans ces deux dernières saisons. On a aussi essayé de faire du blues, ça a aussi bien marché. On a fait du reggae aussi, c'était aussi une nouveauté pour Frisson, puis ça a aussi très bien marché. Disons, on est vraiment très très ouvert à toutes les tendances musicales, mais on défend une ligne très très claire aussi au niveau de qualité.
Le critère, ce serait la qualité.
Ouais. C'est la réception personnelle, la personne qui organise le concert, qui dicte un peu le programme.
Malgré tout, on a pu voir dans les programmations de ces dernières années des noms de grands groupes médiatiquement très reconnus.
On fait aussi des grands groupes, certainement, des noms qui sont connus, mais pas uniquement par des raisons financières. Ou bien financière, pardon. Parce que Frisson, c'est une salle avec une capacité de 800 personnes. Alors, on a des fois aussi envie d'avoir un grand public, une atmosphère très chaleureuse. Inside another book, that's all it took for you to discover undercover.
It's not so hard to be. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui ne se sentent pas forcément à l'aise de venir ici et qui ne sont pas intéressés par le contenu qu'on propose, et c'est tout à fait OK. Hein. Enfin, je veux dire, la population est assez grande et on n'a pas besoin de correspondre à tout le monde non plus. Mais en tout cas, on essaye. C'est aussi pour ça qu'on intègre beaucoup de jeunes collectifs, qu'on essaie d'intégrer beaucoup de jeunes collectifs dans les questions de programmation aussi. Et puis qu'on essaie de garder des prix accessibles, qu'on a aussi beaucoup d'offres pour que les jeunes puissent avoir accès à notre contenu assez facilement. Maintenant, je crois qu'il y a aussi une réalité, c'est que aujourd'hui, avec évidemment Internet, en ayant 32 ans, j'ai l'impression que je parle un peu comme une vieille, mais quand même, c'est une réalité. Avec Internet, l'accès au contenu musical, en tout cas, il est beaucoup plus facilité. Et donc, j'ai l'impression que globalement, les mélomanes ont moins ce réflexe de venir absolument découvrir de la musique en live que ce qu'il pouvait y avoir il y a 15 ans, quoi.
Les
gens changent, les gens vieillissent et des nouvelles personnes arrivent. Et c'est très important que des lieux culturels comme Frisson puissent suivre l'évolution de la société et s'adapter. Je pense qu'ils le font très bien à Frisson. Et par exemple, le The Right City, c'est vraiment super. Du style, le rap et les jeunes, c'est super cool et tout. Et en parallèle de ça, il y a aussi des soirées organisées avec le conservatoire où des enfants de 6 ans jouent de la flûte et chantent. Donc il y a vraiment de tout. Donc oui, je pense que Frisson est ouvert à de nouvelles propositions. Oui.
Il y a vraiment énormément de gens qui gravitent autour de Frisson et qui arrivent avec leurs projets. Et je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on est très jeune, en fait. Enfin, Fribourg, c'est une ville très jeune. Et aussi, moi, ça me fait toujours halluciner de voir à Fribourg comment il y a plein de projets musicaux, il y a plein d'artistes. Enfin, les gens, ils font beaucoup de choses. Et du coup, je trouve qu'il faudrait, en plus de Frisson, qu'il fait déjà bien, un autre lieu qui permettrait encore de faire ça encore plus, en fait.
Au-delà de ces questions de programmation, les aspects sociétaux ont toujours joué un rôle central à Frisson. Lors de chaque événement, la priorité est mise sur l'accueil et la sécurité du public. Et depuis quelques années, le club collabore par ailleurs avec le collectif Genre Nocturne pour offrir des soirées dites « Safer Space », format qui met l'accent sur le respect des minorités LGBTQIA+, et sur la prévention de toute forme de discrimination et de harcèlement.
Je trouve que les valeurs de manière générale qui ont été posées en fait au départ dans la création de la structure, elles sont encore très présentes. Et je crois que toutes les personnes qui travaillent ici ont un peu cette pression, mais pas forcément négative, mais de respecter ça et de respecter ce travail-là. Et du coup, ça veut dire aussi, on réfléchit énormément à la manière dont les gens sont accueillis, le public est accueilli, la manière dont les artistes sont accueillis. On est très attentif à plein de détails, je trouve. Ce n'est pas juste faire des concerts, c'est un lieu vraiment de cohésion sociale qui a réuni énormément de gens. Et on veut vraiment que les gens s'y sentent hyper bien. Et du coup, on fait tout pour arriver à ce but-là. Et je trouve que ça, c'est très fort ici, en fait.
Est-ce que c'est votre première soirée Safe Space à Frisson ?
Non, c'est la deuxième.
Merveilleux. Vous connaissez le concept ?
Oui.
C'est super. Amusez-vous bien.
Merci.
Bonne
soirée.
Joël Yagi,
c'est clairement des soirées...
membre de la famille Frisson depuis presque 10 ans.
Particulière, c'est-à-dire que c'est un collectif qui s'appelle Genre Nocturne qui organise les Safe Space à Frisson. C'est une soirée un peu labellisée, comme on a des patates douces ou des ping-pong. En l'occurrence, là, c'est pas seulement un concept artistique et musical, mais vraiment aussi un concept, je dirais, alors d'ambiance, oui, mais je crois que ça va un peu plus loin. C'est vraiment un peu une question sociale, une question sociétale. Ça nous semble hyper important que tout le monde puisse accéder à la culture et puis, voilà, on essaye parfois de faire des efforts pour des gens qui sont autrement empêchés. C'est pas toujours évident. Et par contre, faire des soirées pour des minorités LGBTQI+, où on a vraiment cette ambiance de non-discrimination, c'est facile à mettre en place, en fait. Ça se fait assez naturellement. Les gens viennent... Enfin, ça marche bien, ça fonctionne bien. Et du coup, ça, c'est super. Salut. C'est votre première Safe Space à Frisson ?
Pardon ?
Est-ce que c'est votre première Safe Space à Frisson ?
Non. Je pense que je suis venu à toutes les Safe Space de Frisson.
Alors,
un présentage. Merci.
Ouais, ces soirées-là, c'est assez ouf, quoi, en fait. C'est vraiment... les gens qui viennent, ils sont vraiment bienveillants et contents d'être là et très... C'est un peu cliché, mais très love, quoi. Enfin, ouais, sympa.
L'inclusion, ça comprend énormément de choses, mais je pense que c'est aussi justement donner l'opportunité à des jeunes de très vite s'impliquer dans une truc comme celle-là, donc de accessibilité, quoi. Vraiment d'essayer de pouvoir accueillir tout le monde, autant dans le public, les artistes que le staff, en fait. C'est vraiment d'être ouvert le plus possible à tout le monde. c'est de valoriser des... Je sais pas si c'est une valeur, mais en tout cas de valoriser des contenus artistiques qui sortent un peu de la norme. C'est de questionner aussi la culture, c'est de questionner les enjeux sociétaux, c'est de poser des questions à un moment sur qu'est-ce qu'on présente, pourquoi, quel rôle on a aussi dans la société, dans ce qu'on présente.
En parallèle de ces enjeux sociétaux, une vaste réflexion est menée à l'interne sur le fonctionnement de la structure et de ses 200 employés. Des questions autour de la durabilité, de la santé, mais aussi du bien-être au travail comptent parmi les thèmes centraux qui occupent les équipes et nourrissent de nombreux débats.
Bah, ça veut dire, par exemple, de pas partir du principe que c'est OK de venir à 9h au bureau et de rester jusqu'à 5h du matin en travaillant. Ce qu'on a toutes et tous fait à un certain moment dans nos petites carrières, hein, ça, c'est plus OK. Ça veut dire aussi de faire attention à notre consommation, parce que c'est un milieu où ça consomme beaucoup. Et donc, de sensibiliser, de prévenir aussi ces risques-là d'addiction et autres. Ça veut dire d'essayer de prendre des pauses à midi, enfin, de le faire d'ailleurs, de se nourrir correctement. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Et je pense que c'est aussi une ambiance de travail. Par exemple, aussi, un des gros débats qu'on a eu ces dernières années, c'est la question de la cigarette. Est-ce que c'est OK en fait, de fumer pendant des séances de bureau? Est-ce que c'est OK pour les techniciens qui bossent toute la journée dans la salle de fumer sur la scène alors qu'il y a des non-fumeurs et fumeuses? Enfin, toutes ces questions-là, à un moment, les thématiser aussi, d'en parler, et puis juste d'essayer de comprendre ce dont les gens ont besoin et pas juste partir du principe que parce que c'est les musiques actuelles, parce que c'est ce monde alternatif, bah, c'est normal, on le fait comme ça, quoi. Il y a 5 ans, quand on avait ce débat-là, c'était très controversé. Il y avait plein de gens qui étaient là. Non, mais déjà qu'on nous interdit de fumer partout, si en plus on ne peut plus le faire dans les backstage de Frisson. Quand même, voilà. Maintenant, 5 ans après, ça a vachement changé quand même. Je trouve que les plus réfractaires commencent vraiment à comprendre aussi que non, bah, c'est pas OK d'imposer ça aux personnes qui fument pas et qui sont pas à l'aise avec ça, parce qu'il y a même des fumeurs et des fumeuses qui sont pas à l'aise avec ça non plus. Et donc maintenant, c'est plutôt très respectueux. Et je crois qu'il y a vraiment une ambiance générale de travail qui est très dans le respect, très dans l'écoute de ce que ses collègues peuvent vivre et voilà.
Es ist eigentlich ein Ort, wo ich jetzt verstanden, das ist so.
C'est vraiment un endroit où le staff est hyper attentif à comment on va et c'est vraiment pas orienté profit, je trouve. Il s'agit vraiment de se préoccuper que les gens se sentent bien sur place. Peut-être que c'est aussi lié au fait que je suis une femme et que c'est un lieu où je me sens plus à l'aise que dans d'autres où c'était moins confortable et où j'allais moins volontiers. C'est vraiment une super ambiance et je trouve génial d'avoir pu démarrer dans le monde du travail avec des relations aussi agréables avec les personnes qui travaillent avec moi.
Ce cadre de travail sûr est un argument non négligeable pour attirer de nouveaux jeunes à s'engager dans la structure. En 40 ans d'existence, ce lieu aura traversé plusieurs restructurations et il aura été marqué par une évolution extrêmement rapide du marché de la musique, obligeant la salle à s'interroger sur son rôle et sa place au cœur de la société. Ces enjeux autour de la pertinence actuelle d'une telle salle sont au cœur des réflexions à l'interne.
Pour moi, c'est évident que ces salles, elles sont essentielles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans des salles comme Frisson, c'est pas forcément le cas partout, mais il y a une plateforme qui est laissée aussi aux jeunes, hein, pour organiser des soirées. C'est aussi dans ces salles que les groupes locaux font leurs premiers concerts, leurs premières scènes, ou leur premier collectif de DJ. Pour moi, c'est clair que c'est essentiel. La deuxième chose, c'est le côté socialisation. Et puis l'aspect formation aussi. C'est beaucoup des lieux qui forment, en fait, de manière formelle ou informelle, à différentes compétences.
Ce que je trouve cool et que j'ai vu à Frisson, peut-être que ça existe ailleurs, mais moi je l'ai uniquement vu à Frisson, c'est que pour chaque soirée, pour chaque événement, il y a des nouvelles décos, des nouvelles ambiances. J'adore. Tu plonges vraiment dans une thématique et Frisson en fait à chaque fois un univers complet. C'est génial.
Les deux espaces aussi, ça c'est quand même quelque chose, justement quand on parle de l'évolution, parfois on souligne les choses qui, ah ben on a perdu la fumée, etc. Mais ces deux espaces, la bobine et la grande salle, qui font qu'on peut à la fois écouter un concert, mais aller discuter de manière un peu plus intime avec des gens autour d'un bar, s'asseoir, se poser, ça en fait de nouveau un lieu assez magique, parce qu'il n'y a pas partout c'est possible de cumuler les deux en fait dans une soirée.
Farida Kali a fait exister Frisson fait son cinéma pendant 7 ans.
Ça reste un lieu coup de cœur qu'il faut venir découvrir. Je pense qu'il ne faut pas trop le décrire non plus.
Je nomme pour esthétique, est Frisson, il y a
D'un point de vue purement esthétique, Frisson est tout simplement unique, car au fil des ans, il y a toujours de nouvelles décos qui ont été installées par les gens et ça raconte vraiment l'histoire du lieu. Chaque génération apporte une couche d'histoire supplémentaire et personne n'essaie d'enlever quelque chose. En fait, on ne fait qu'ajouter toujours plus.
Und man sieht so wie jede Generation ihre Schicht drauf tut und es wird nie versucht etwas wegzunehmen, sondern es kann einfach mehr und mehr dazu kommen.
Il y a le côté historique, il y a l'ancienneté, je pense, qui sont quand même importantes et qui font aussi que Frisson rayonne peut-être plus que d'autres, je sais pas, mais moi en tout cas c'est l'impression que j'ai.
Lorelai Moron, liée à l'histoire de Frisson depuis son enfance.
Mais ça ne veut pas dire que d'autres endroits comme le Nouveau Monde ou autres, ou Ébullition, ou toutes les autres salles du canton sont moins importantes. Bien au contraire, toutes les salles de concert ont leur rôle à jouer. Mais c'est vrai que Frisson, qui est là depuis 40 ans et qui a été dans les précurseurs des clubs en Suisse romande, je pense que c'est d'autant plus important de respecter ça et puis de faire honneur à cette histoire.
On a eu l'assemblée générale il n'y a pas longtemps, et à la fin de la soirée, je dis, mais c'est quand même formidable, quoi. Je trouve que vraiment l'équipe qui est maintenant, je trouve vraiment formidable. Ça marche. Il y a un boulot de fou. Ça se fait. Il y a eu un problème avec un gars qui était très compétent, mais un peu chiant à vivre. Ils ont réglé le problème avec peut-être moins de violence que nous, on a pu le faire. Voilà. Et je dis, mais on a une chance énorme d'avoir, parmi la jeunesse fribourgeoise, d'avoir des gens comme ça qui s'impliquent dans un truc. Ils savent que finalement, pour eux, le plaisir, il est immédiat. C'est de voir quand les lumières se rallument, tu vois, les gens sont bien, ils ont adoré le concert. Ça, c'est formidable. C'est vraiment formidable.
Il y a vraiment des moments un peu d'émotion. Tout à coup, on est une équipe du bureau à une soirée, à danser ensemble, à se regarder avec des cœurs dans les yeux, peut-être là, mais c'est trop bien de bosser ici, et c'est trop bien de bosser avec vous, et en fait, on est hyper heureuse.
Mettre un sourire sur le visage du public, ça c'est vraiment des choses, c'est les moments que je retiens le plus, c'est quand tu es sur scène, caché un peu derrière, dans les coulisses, derrière les pendrillons, et puis tu vois un peu les gens sourire comme ça sur les premiers rangs, t'es là genre, ah, c'est super, ma soirée, elle a réussi, quoi.
En Suisse, rares sont les salles de musique actuelles qui peuvent se targuer de souffler leur 40e bougie. Cette histoire, c'est celle coécrite par des centaines de passionnés, et cette histoire, c'est aussi celle qui aura influencé le destin de chacune des personnes qui s'y sont engagées.
J'ai réfléchi à arrêter Frisson cette année car je vais certainement déménager à Zurich pour mes études et du coup ça me paraissait difficile de concilier les deux. Mais en même temps, j'ai une amie qui étudie elle aussi à Zurich et qui continue à travailler à Frisson. Donc je me suis dit, si elle en est capable, alors moi aussi. Et donc j'ai dit à Marjo, peu importe, je reste et si je travaille une à deux fois par mois jusqu'à 5 heures du mat, c'est ok, je le fais avec plaisir. Pour moi, Frisson représente beaucoup, c'est un endroit qui m'est très cher et même si c'est moins souvent, j'ai encore envie d'y investir de l'énergie, c'est super important pour moi.
Ce type de culture, il fallait la défendre, mais il y avait alors une chose qui était folle, c'est qu'il y a tout qui était à faire.
Yvan Salin.
Et c'est d'avoir ce privilège-là, c'est fantastique d'être au début quand même de quelque chose, alors... Voilà, il y a tout à faire, donc il faut être dans la bricole, mais la bricole géniale.
Ce qui est chouette, c'est que c'est pas toi qui va amener quelque chose à Frisson, c'est Frisson qui va passer par toi pour t'amener quelque chose à toi dans ta carrière ou dans ta vie. Voilà.
Même si on travaille dans un autre domaine culturel, comme le cinéma par exemple, les expériences acquises dans un domaine culturel sont très précieuses. On développe une certaine légitimité quand on travaille dans une administration culturelle, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui.
Laurent Steyert.
Et de façon très pragmatique, on apprend aussi à faire des budgets, on apprend à faire de la promotion, à contacter les médias quand on organise un événement. On sait qu'il ne faut pas les appeler un jour avant, mais quelques semaines avant. De cette manière, ils savent qu'un événement aura lieu ici. Ça peut donc être intéressant pour eux. On apprend à planifier. On fait aussi beaucoup d'erreurs et en y repensant, on se dit, Je ferais ça autrement aujourd'hui. C'est grâce à des échecs permanents que l'on progresse, bien plus que si tout s'était bien passé.
Dans des postes administratifs aujourd'hui extrêmement importants, il y a des gens qui ont commencé à Frisson.
Anya de la Croce.
Qui sont aujourd'hui responsables de services culturels de ville ou responsables de services chez Pro Helvetia. Enfin voilà, on peut les citer, hein, mais des Michael Kinzer, des Marius Kaiser, c'est des gens qui ont commencé à Frisson. Donc comme quoi, c'est des passages importants pour se forger une identité culturelle et apprendre un peu comment ça marche sur le terrain. C'est quand même important, quoi.
C'est vraiment... pour moi, mes années d'appartenance, et je pense que ça a été...
Valérie Imbert.
Je ne sais pas, fondateur pour moi dans la structuration de l'esprit, dans une manière de penser, dans la manière de fonctionner en association, dans la manière de discuter, cette manière quand même très collective. Hein, il n'y a toujours pas de président à Frisson. Pour moi, ça a été extrêmement formateur, et c'est ces années de jeunesse qui comptent sans doute double, quoi, parce qu'elles sont cruciales.
Quand même, c'est une page de ma vie qui a beaucoup beaucoup compté, parce que j'étais très investie pendant ces années-là. Et justement,
Sonia Maraf,
24 et 33 ans, c'est quand même des belles années d'une vie. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce projet et de pouvoir m'investir là avec grand plaisir.
Bah, c'est un impact fondamental de se dire que voilà, ça, j'en ai fait mon métier où je suis à...
Vincent Sudan.
Où je vis à 100% de ça, ouais.
C'est ça qui m'a fait découvrir d'abord le spectacle, c'était là.
François Gendre.
Et très vite après, vu que je faisais un petit peu de lumière comme on pouvait à Frisson, il y a des gens de la marionnette... qui m'ont demandé de faire des éclairages pour eux. Puis, du coup, je suis parti dans plein de branches en même temps, quoi. Je fais beaucoup, beaucoup de choses, toutes petites, minuscules, pour les gens qui ont relativement peu de thunes. Et ça, c'est peut-être Frisson qui me l'a appris, ouais.
C'est vrai que maintenant, je ne suis plus tellement dans le milieu, mais c'est vrai que, justement,
Gilles Vider.
Une certaine éthique de travail que tu apprends, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur quand tu fais du live. Et ouais, c'est vraiment aussi le truc où t'apprends à aider les autres, parce que des fois, il n'y a pas assez de main-d'œuvre d'un côté ou de l'autre. T'apprends une certaine flexibilité que t'aurais peut-être pas si tu fais un chemin plus classique.
Pour moi, c'était une attitude et c'était important de pouvoir travailler dans un lieu qui n'a pas de but commercial, qui fonctionne différemment. Et ça, à plein de niveaux, en marge des structures commerciales. Et je crois que c'était une prise de position politique pour beaucoup, pour moi dans tous les cas. Participer à l'élaboration d'un projet commun où tu sens...
Pablo Niederberger.
Pour moi, c'est toujours une question de sentir les choses, de suivre les émotions. Et là, ce n'est pas comparable avec un autre lieu. L'expérience commune, la chance de pouvoir en faire partie, c'est vraiment une grande satisfaction.
Ça nous a formés, en fait. Comment on fait un, voire deux concerts par semaine, c'était une école très, très rapide.
Franz Treichler.
Donc, au début, ça m'a marqué dans ce sens-là. Et l'impact était que, effectivement, je me suis dit, moi, je veux plutôt être sur scène que autour des placements des micros et puis des haut-parleurs. Donc c'était fondamental par rapport à mon choix.
Cela n'a pas seulement fait partie de mes loisirs, ça a surtout fait partie.
Damir Skenderovic.
Disons, d'un ancrage culturel et social à un certain moment de ma biographie.
Tous les gens que j'ai pu rencontrer, tous les groupes, tous les tour managers, tous les collaboratrices, collaborateurs, collègues et tout, tout ça. Donc, c'était juste une expérience hyper riche. Après, absolument, absolument aussi musicalement, j'ai découvert tellement de choses.
Julia Crotet.
Donc, c'est une richesse vraiment juste énorme. Et puis aussi de juste connaître mes limites, ça aussi, mes limites, soit physiques ou dans les connaissances aussi, d'avouer quand tu ne connais pas quelque chose. Donc tout ça, c'était en tout peut-être 15 ans que j'ai vécu un peu au sein de Frisson. ça reste dans mon cœur, quoi. C'est juste, voilà, c'est essentiel pour moi, je crois.
Frisson, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes, et puis c'est un lien.
Hamza Manaï.
Maintenant, je connais beaucoup de monde à Fribourg. C'est une relation presque amicale maintenant, qui crée avec le temps. Ouais.
Je pense que ça a beaucoup, beaucoup enrichi mon réseau. Beaucoup d'amitiés, beaucoup de...
Marcel Breg.
Ouais, de respect devant toutes ces personnes qui ont investi ce lieu. Et que je peux toujours compter dessus. Et ça me rend vraiment reconnaissante, humble et me fait beaucoup de plaisir.
C'est peut-être un des seuls lieux fribourgeois qu'on a vraiment fréquenté ensemble. Les autres, on a des goûts très différents.
Farida Kali.
Les gens avec qui on venait ici, ben justement, c'est les seules personnes qu'on fréquentait en commun et puis avec qui on partageait ben justement non seulement notre histoire d'amour, mais notre amour pour le lieu et avec qui on a toujours gardé des contacts. Effectivement, c'est des gens solides, quoi.
Alors, je rejoins ce que dit Farida. Je dirais que ça a aussi été une histoire d'amitié.
Pierre Yanni.
Parce que on est venu ici avec un ami qui nous est toujours très, très proche, qui est Christian. On a mixé avec lui. Il a aussi fait partie de Frisson fait son cinéma. Frisson fait son cinéma, ça a été vraiment une découverte de quelques personnes avec qui on a gardé des contacts. Donc, si l'amour est aussi de l'amitié, il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour dans notre aventure notre rapport à Frisson.
Frisson, bien sûr que ça a eu un impact pour moi. Ne serait-ce que parce que mon fils, il en a fait son métier, et puis qu'il a... Ouais, je crois que ça a été très important.
Marie Daubens.
Ça a construit en moi, je crois aussi, la foi dans le futur, dans les choses sont possibles. Alors, je suis peut-être un peu fleur bleue, une éternelle optimiste, mais je suis sûre que ça continue. Et puis, si ce n'est pas Frisson, c'est d'autres endroits, mais cette énergie-là, je pense qu'elle existe toujours.
Les 40 ans d'histoire racontent bien plus que l'histoire de Frisson. Cette aventure humaine, c'est aussi le reflet de l'évolution de la société tout entière. Frisson, c'est une histoire de passion parfois houleuse, mais de passion toujours, un lieu qui aura su se relever de toutes les crises traversées. Un espace qui n'aura jamais totalement perdu son esprit subversif et rebelle, un lieu d'ouverture et de découverte, un espace surtout où le respect est érigé en valeur cardinale. Bien plus qu'une salle de concert, Frisson, c'est avant tout une partie de l'âme de Fribourg.
Loud and proud, and hungry for more.
Un podcast de l'association Frisson. Réalisation, Valentin Brugger et Noémie Guignard. Musique, Eric et Alexis Rueger. Traduction, Noémie Buchy, Julie Hugo et Kim Sanner. Graphisme, Lucie Bayot. Et un merci tout particulier à Yvan Salin, Sonia Maras, Franz Streichler et Daniel Prella pour leur précieuse mise à disposition d'archives et d'enregistrements.